VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 12 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le président américain Donald Trump suspend pour 30 jours tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis en raison du coronavirus.
L'OMS, profondément préoccupée tant par les niveaux alarmants de propagation et de gravité de la pandémie, que par les niveaux alarmants d'inaction dans le monde.
Au Mali, 10 personnes tuées par des hommes armés non identifiés dans un village proche du Burkina Faso.
En République démocratique du Congo, 210 civils tués en janvier. L'armée peine à arrêter les exactions selon un rapport du baromètre sécuritaire du Kivu.
En Irak, des tirs de roquettes contre une base militaire font 3 morts, dont 2 soldats, américains et britanniques.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier soir la suspension pour 30 jours de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis afin d'endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus qui a de nouveau affolé les marchés financiers. Le point avec Jean-Roger Bion.
J'ai décidé de prendre des actions fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains, a annoncé M. Trump lors d'une allocution solennelle depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Cette mesure, qui entrera en vigueur vendredi à minuit, 4 GMT samedi, ne concernera pas le Royaume-Uni, a précisé M. Trump. Il a par ailleurs appelé le Congrès américain à adopter rapidement une réduction des taxes sur les salaires pour aider les ménages américains à surmonter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Cette proposition faite par son administration en début de semaine n'a pas eu un écho très favorable auprès des élus, y compris de son propre parti. Le président a aussi annoncé le report de la date butoir de paiement des impôts pour certains individus et entreprises qui devraient permettre, selon lui, de réinjecter 200 milliards de dollars de liquidités supplémentaires dans l'économie. Wall Street a connu une nouvelle séance noire mercredi. Le Dow Jones s'est effondré de 5,87% et le Nasdaq a perdu 4,70%. Les États-Unis ont dépassé mercredi la barre des 1 200 cas d'infection au nouveau coronavirus et 38 personnes en sont mortes, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins.
Ajoutons qu'en raison de la pandémie, le président Trump a annulé un déplacement prévu en fin de semaine dans le Colorado et le Nevada. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 6% ce matin en Asie après son annonce sur tous les voyages entre l'Europe et les États-Unis. La bourse de Hong Kong a ouvert en baisse de près de 3% et celle de Chine continentale était également en repli, mais dans une moindre mesure.
Les États-Unis ont par ailleurs exhorté hier soir les Américains à éviter tout voyage à l'étranger. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié ce mercredi de pandémie le nouveau coronavirus dans le monde. Depuis son apparition en décembre, 124 101 cas d'infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de 4 566 personnes, selon un bilan de l'AFP. La Chine dénombre 80 778 cas, dont 3 158 décès et 61 475 personnes aujourd'hui guéries. Plus de 20 000 personnes ont été contaminées en Europe et 930 en sont mortes.
Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud et l'Espagne. L'Albanie, la Suède, l'Irlande, la Belgique, le Panama et la Bulgarie ont recensé les premiers décès sur leur territoire. Cuba, Brunei, le Honduras, la Bolivie, la Côte d'Ivoire et la Turquie ont quant à eux annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.
Dans la soirée, la France a annoncé avoir enregistré 15 nouveaux décès, portant le bilan total à 48 morts sur 2281 cas confirmés depuis janvier. Près de 500 nouveaux cas. L'Italie a durci les restrictions en fermant tous les bars et restaurants et commerces hors alimentation et santé. L'Inde suspend tous les visas de tourisme et impose une quarantaine aux voyageurs provenant de 7 pays touchés.
L'acteur américain Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, en voyage en Australie, ont annoncé avoir contracté le coronavirus et la NBA suspend tous les matchs de basketball de la saison après un cas constaté de coronavirus chez un joueur de Utah qui, dans un premier temps, entraînait le report du match du Jazz prévu en soirée à Oklahoma City.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le reste de l'actualité, au Mali, 10 personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés dans le village de Kourkanda, proche du Burkina Faso. Selon des responsables locaux, le village a été également incendié par les assaillants. Le point avec Bagassi Koura.
Vers le crépuscule, ils sont venus en petit groupe sur des motos, tous armés. Ils ont commencé à faire des tours en moto autour de petits villages. Ce n'est que vers 20h, le 9 mars, qu'ils ont commencé à attaquer les villages, a dit à l'AFP un conseiller du chef du village de Kourkanda, Youssouf Togo. Ils se sont ensuite regroupés et ont attaqué et incendié notre village, a-t-il ajouté. Il y a eu 10 morts, le village est incendié et personne ne sait d'où viennent les assaillants, a dit un responsable de l'administration de Bankas, la ville la plus proche, Yana Dolo, dont des agents ont incendié les lieux. Kourkanda est situé dans la même région que le village martyr d'Ogosagou, où 31 civils peuls ont été tués le 14 février, un an après le massacre de 160 membres de cette même communauté peul. En mars 2019, le centre du Mali est le théâtre d'un grand nombre de violences depuis 2015. Les attaques, souvent suivies de représailles, se sont multipliées entre les peuls, majoritairement élevés, et les ethnies Bambara et Dogon, qui pratiquent essentiellement l'agriculture.
Les experts ouest-africains en mission en Guinée pour l'aider à sortir de la crise politique recommandent de retirer près de 2,5 millions de noms des listes initialement retenues pour un référendum couplé à des élections législatives. Des détails avec Nani Talani.
Selon un document consulté hier par l'AFP, ce nombre représente le tiers des noms figurant dans le fichier qui devait servir à un référendum constitutionnel et des élections parlementaires à l'origine prévues le 1er mars. Ces experts ont relevé que sur la liste des 7,764 millions d'électeurs communiqués par la Commission électorale guinéenne, 2438 millions ne disposent d'aucune pièce justificative. La mission recommande vivement le retrait de ces électeurs. Elle relève également plus de 38 000 cas de doublons potentiels sur les listes et préconise un réexamen de ces cas pour une nouvelle validation. La Commission électorale a adopté les recommandations des experts, a affirmé son président Amadou Salifou Kébé sur Facebook, sans indiquer l'effet qu'une telle mise en œuvre aurait sur le nouveau calendrier électoral. Le pouvoir a reporté s'inédier au dernier moment le scrutin, dans un contexte de fortes tensions, de vives contestations de la part de l'opposition et de critiques émanant de la communauté internationale. L'opposition dénonçait aussi un fichier électoral truqué et disproportionné par rapport à la population du pays et avait décidé de boycotter les scrutins du 1er mars.
En République démocratique du Congo, le mois de janvier a été, avec 210 morts parmi les civils, le plus meurtrier dans l'est de ce pays depuis juin 2017, selon un rapport du baromètre sécuritaire du Kivu, le KST. Ce dernier met en garde la capacité de l'armée régulière face aux groupes armés dans aucun des quatre foyers de tension, dont Beni. Le KST est un projet mené conjointement par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York et par l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch.
En Irak, il y a eu 3 morts, dont 2 soldats américains et britanniques, hier soir, et une dizaine de personnes blessées dans des tirs de roquettes contre une base militaire abritant des troupes de la coalition au nord de Bagdad, la capitale.
Et puis la Cour suprême des États-Unis a octroyé hier, mercredi, une victoire à l'administration Trump en l'autorisant à poursuivre une politique qui a permis de renvoyer au Mexique plus de 60 000 demandeurs d'asile. Eric Manirakiza.
Annoncée en décembre 2018 et mise en œuvre un mois plus tard, cette politique baptisée Rester au Mexique vise tous les demandeurs d'asile arrivés aux États-Unis via le Mexique, mais pas les Mexicains eux-mêmes. La décision de la Cour suprême permet de le maintenir hors des États-Unis le temps de l'examen de leur dossier. Plus de 60 000 migrants, en grande majorité fuyant la pauvreté et la violence en Amérique centrale, ont été renvoyés au Mexique dans ce cadre en 13 mois, selon la Maison-Blanche. Une cour d'appel fédérale a récemment jugé le dispositif illégal et devait en conséquence être suspendu sur des pans de la frontière à partir de jeudi. Le président Trump a alors saisi la Cour suprême en urgence pour lui demander de bloquer l'ordre du tribunal. La Cour suprême lui a donné raison. L'ordre du tribunal est suspendu en attendant l'examen des arguments sur le fond, a-t-elle décidé sans donner plus d'explications. Le juge progressiste Sonia Sotomayor a précisé ne pas être d'accord. Le temple du droit américain, remanié par Donald Trump, a accordé plusieurs victoires significatives à l'administration républicaine en matière d'immigration. Ces derniers mois. Il a notamment autorisé à financer la construction d'un mur à la frontière sud avec des fonds militaires ou à pénaliser les migrants bénéficiant d'aides sociales.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement zimbabwéen a annoncé l'adoption d'un nouveau système de fixation du taux de change de sa devise dans l'espoir de ralentir sa dévaluation et l'inflation galopante qui continue de ruiner son économie. Le nouveau régime dit de change flottant contrôlé vise à stabiliser le taux de change du dollar zimbabwéen et par conséquent à réduire l'inflation, a déclaré le ministre des Finances Ntuli Nkube. La nouvelle plateforme va permettre aux monnaies de s'échanger librement entre banques et de fixer un taux de change véritable. La Mauritanie et le Sénégal ont signé des accords de coopération dans les domaines de l'économie maritime, l'énergie, la pêche, le pétrole et le gaz lors de la visite du président Macky Sall à Nouakchott. Les deux pays ont aussi réaffirmé leur engagement en faveur d'une gestion juste et équitable de leurs ressources naturelles communes pour servir plus efficacement les intérêts de leur population. Pour terminer, l'impact des développements liés au coronavirus sur une situation économique mondiale déjà fragile est un vrai défi et requiert une action mondiale coordonnée de tous les acteurs du marché, affirme l'Organisation des pays producteurs de pétrole dans son rapport. Cet appel intervient alors même que l'Arabie saoudite, chef de file du cartel, a lancé une guerre des prix et après que la Russie, partenaire de l'OPEP, a refusé de réduire sa production pour soutenir des cours malmenés par l'épidémie de coronavirus.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'arbitrage par assistance vidéo sera utilisé dès les demi-finales de la Ligue des champions CAF.
Oui, la technologie d'arbitrage par assistance vidéo sera utilisée lors des demi-finales entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et Al Ahly du Caire d'un côté et le Raja de Casa et le Zamalek d'Égypte de l'autre. Les matchs aller auront lieu le 1er mai et les retours le 8 mai. La VAR devrait permettre de limiter au maximum les erreurs d'arbitrage. Pour rappel, l'utilisation de cette technologie en finale de la Ligue des Champions l'année dernière a engendré ce qui est aujourd'hui appelé le scandale de Rades. Les joueurs du Wydad ont contesté l'annulation de leur but qu'ils estimaient valable et demandé un recours à la VAR annoncée, mais absente au stade. Depuis, la CAF a décidé de faire jouer les finales en un seul match et sur terrain neutre.
Le Gabon a dévoilé sa liste de joueurs pour les éliminatoires de la CAN 2021.
Oui, les Gabonais peuvent compter sur leur cadre dans la double confrontation face à la Gambie les 26 et 30 mars. Le sélectionneur Patrice Neveu a publié une liste des 23 joueurs avec en tête des habitués comme Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga et Mario Lemina. On note également le retour de Johan Obiang en remplacement d'Irondou Moussa Vouking blessé. Panthère gabonaise et Scorpion gambien sont à la tête du groupe D avec 4 points chacun après les deux premières journées.
La flamme olympique allumée en l'absence de spectateurs.
Spectateurs interdits, nombre d'invités et de médias restreints, festivités annulées. annulée. Pour la première fois en 3 décennies, la flamme olympique sera allumée aujourd'hui en l'absence de spectateurs pour les JO d'été de Tokyo. La cérémonie a été repensée par le Comité international olympique pour cause du coronavirus qui touche 89 personnes en Grèce. La majorité des cas provient de la péninsule du Péloponnèse où se trouve Olympie, berceau de l'olympisme dans l'Antiquité. La mairie d'Olympie a annulé tous les événements organisés en marge de la cérémonie, comme les expositions, les rencontres et sorties scolaires. Idrissa, avec vous, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Ces résultats avant la décision de la NBA de suspendre tous les matchs de la saison en raison du coronavirus. Philadelphie et Détroit 124-106, Dallas et Denver 113-97, New York et Atlanta 136-131, Charlotte et Miami 109-98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, des ONG et des médias ont été accusés de comploter contre l'État par le ministre de l'administration territoriale au cours d'un point de presse. Selon lui, ces ONG déstabilisent le Cameroun avec des financements occultes émanant de l'intérieur et de l'extérieur du pays. La réaction des médias et ONG indexés ne s'est pas fait attendre. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julntap.
Les ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité.
L'une des ONG nommées a tout fait de réagir. 24 heures seulement après cette déclaration du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, basé au Cameroun, a réfuté les propos tenus par le ministre. Maximilienne Gombe, directrice exécutive du REDAC.
Il y aura une plainte qui sera déposée contre M. Atangandji pour qu'il démontre comment nous sommes parmi les ONG qui déstabilisent les institutions. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un ministre de la République rentre dans ce genre de calomnie.
Le ministre de l'administration territoriale n'a eu aucune réserve sur les financements des agences onusiennes, des ONG internationales et locales qui suivent de près la crise en zone anglophone. Paul Atangandji.
Ces ONG aux ordres ont reçu plus de 5 milliards de francs CFA des réseaux occultes à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun pour déstabiliser les institutions républicaines. Diffuser régulièrement dans certains médias à leur solde et dans les réseaux sociaux des informations tronquées pour discréditer la gestion de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par le gouvernement.
Le journal Le Jour a été cité par le ministre parmi les 4 médias locaux à capitaux privés qui, citation, relaient les rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité. Haman Mana, directeur de publication du journal Le Jour.
Je n'accepterai pas que quelqu'un, parce qu'il a eu un matin un décret, fût-ce du chef de l'État, vienne parler ainsi de moi et de mon travail. J'ai dû interdire à M. Atangandji de parler de mon journal en ces termes orduriers.
Selon l'analyste politique Antoine Awana, cette détérioration des rapports entre le gouvernement, certains médias privés et les ONG est l'une des conséquences de la crise anglophone qui perdure depuis 3 ans.
Ces ONG ne devraient pas normalement s'immixer dans des affaires purement intérieures au Cameroun, entre autres matières, des problèmes politiques et des problèmes purement sécuritaires. Les rapports de Human Rights Watch, ces rapports doivent être validé par les pouvoirs publics avant d'être publié. D'où vient-il du fait que lorsque ce rapport crée des problèmes, c'est en ce moment-là que le gouvernement sort pour essayer un peu d'apporter des démentis, alors que c'est eux-mêmes qui ont validé ce rapport.
Un délai de 60 jours a été fixé aux ONG exerçant dans le pays pour déposer leur rapport d'activité des 3 dernières années, y compris celle du système des Nations Unies. Yaoundé, Emmanuel Julntap, VOA Afrique.
– Retour ce matin sur les violences qui ont fait 43 morts le week-end dernier dans le nord du Burkina Faso. Trois villages ont été attaqués tôt dimanche matin, selon le gouvernement, par des hommes armés non identifiés. Mais au sein des communautés affectées, les auteurs ne font aucun doute. Il s'agit des Kogloego, un groupe d'autodéfense déjà mis en cause dans plusieurs cas d'exaction. Écoutez au micro de Bagassikoura ce témoignage de Tal Mamadou du village de Dinguela.
Le dimanche 8 mars matin, 5h30, ici à Ouaizia, mon neveu était dans le village. Maintenant, bon, il m'a appelé ce matin à la première, il dit bon, d'informer le villageois de quitter dans le village parce que les Kogloego sont en train de venir. Il est en train de bruit, il est en train de tirer. Les gens entendent le bruit de moto. Donc, moi, j'ai appelé les villageois, je leur dis tout le monde n'a qu'à quitter dans les villages parce que ça ne va pas. Les gens là, ils sont en train de venir dans les villages. Bon, maintenant, bon, il y en a qui ne sont pas entendus ça. Ceux qui ont entendu, ils ont fui rentrer dans la brousse. Ils sont rentrés. Tout l'homme qu'il voit, immédiatement, il est sûr. L'homme, ça suffit seulement un homme, à partir de 10 ans, s'il voit un garçon seulement, il est sûr. Mais ils n'ont pas tué de femmes.
Là, vous accusez les Kogloego, le groupe d'autodéfense. Ce qu'on dit aussi, c'est que les terroristes se promènent en groupe et à moto, comme ce que vous décrivez.
Ces gens-là, le langue qu'ils parlent, c'est-à-dire que ce sont les gens. Il y a des preuves. Les Kogloego, les terroristes n'ont jamais venu dans notre commune. Ils n'ont jamais touché quelqu'un dans la commune. Jamais. Les Kogloego étaient venus chez nous le 8 décembre aussi, 2019, c'est le même air qu'ils sont venus, c'est le même endroit qu'ils sont venus. Bon, ils sont venus rentrer dans le village et dit qu'ils cherchent quelqu'un, un terroriste, parce que sa maman est dans le village.
Oui, ouais. Vous dites que ce sont des Kogloego parce qu'ils ont été reconnus tout de suite par tout le monde.
C'est-à-dire ça, c'est sûr et certain, c'est des Kogloego. On est sûr, même pas de doute.
Mais on dit que vous, vos villages aussi, il y a des Kogloego qui disent que ce n'est pas eux.
C'est obligé, ils vont dire ça parce qu'ils sont menti. On sait que c'est eux. Nous, on sait, on le sait. Si l'enquête continue, on va les trouver.
Vous pensez qu'il y a une enquête en ce moment?
Vraiment, je ne sais pas. Mais quand même, l'État est en train de faire quelque chose au niveau des populations. Toute la population des villages et tous les villages de communes de Barga, ils sont tous entrés à Ouaigoya. Ils ont eu peur parce qu'il n'y a plus de sécurité.
Est-ce que depuis que vous vous exprimez dans les médias, est-ce que l'autorité a essayé de vous entendre aussi?
Non, non, non.
Et donc les populations ont quitté la région alors?
Ils sont tous quittés dans ces communes. D'ailleurs, même celles dans le réseau, elles sont en train de courir, rentrer à Ouaigoya.
Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire en ce moment pour assurer toutes ces populations-là?
Bon, au niveau de sécurité, je ne peux pas savoir, mais vraiment... Il y a beaucoup de projets, il y a l'action sociale. Ils ont donné un terrain à la population, ils sont en train de construire des tentes. Ils disent tout le monde d'aller là-bas. Peut-être demain, ils vont quand même commencer à les aider parce que tout le monde a pu laisser leur vivre. Maintenant, bon, peut-être ils vont les aider. Ça, le gouvernement est en train de faire ça.
Témoignage de Tal Mamadou du village de Dinguela au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En Guinée, où les élections législatives couplées au référendum initialement prévu le 1er mars et reporté de 2 semaines par le président Alpha Condé, eh bien, ces élections n'auront pas lieu ce dimanche 15 mars. Les experts de la CDAO travaillent toujours sur le fichier électoral qui cristallise les tensions dans ce pays. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint Aboubacar Kondé, rédacteur en chef de Sabari FM, notre station partenaire en Guinée.
Dans le fond de ce report annoncé par le chef de l'État, il y avait la volonté de calmer les jeux. La tension était vive dans le pays. Mais dans la forme, il y a eu vice de procédure parce qu'il ne revient pas au président de proposer une date. Il revient au président de valider ou d'invalider une date qui a été proposée par la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce que dit la loi. Le président a annoncé que les élections sont reportées pour 2 semaines, mais il revenait à la CENI de faire la proposition pour entériner ce choix du président de la République. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a les experts de la CEDEAO qui sont au pays, qui doivent travailler sur le fichier électoral du 3 au 13 mars. Donc mathématiquement, les filles doivent finir le travail après demain. C'est après cela maintenant. Si ce résultat-là est accepté de tous maintenant, que la commission électorale va déposer une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour que cette requête soit validée et qu'elle puisse proposer une requête au président de la République.
Les experts de la CEDEAO doivent examiner le fichier électoral jusqu'au 13 mars. Mais entre-temps, qui a décidé que les élections n'auront plus lieu le 15 mars comme le président Alpha Condé l'avait annoncé?
Le président a des intentions politiques. Il veut que les élections parce qu'il y a la pression de part et d'autre. La communauté internationale, la communauté régionale et sous-régionale mettent la pression, mais également à l'interne. Parce qu'il y a des partis politiques qui sont candidats pour ces élections législatives qui avaient d'ailleurs menacé de mettre ça dans la rue ce mardi si aucune date n'est fixée pour la tenue des élections législatives. Et même, il y a des partisans du pouvoir en place qui exigent à ce qu'une date soit fixée pour aller à ces élections. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains membres de ce pouvoir en place qui reprochent à ce fichier électoral. Donc, ça veut dire que il n'y a pas une base légale, une base de compromis pour aller à ces élections. C'est ce qui fait que la CENI, qui est l'organe habilité à faire des propositions de dates au président de la République pour que ces dates-là soient validées, ne s'est pas mise dans la logique de proposer une date parce qu'elle dit qu'il faut qu'elle attende d'abord le résultat, la finalité du travail des experts de la CEDEAO et que chacun comprenne exactement quel est le problème du fichier électoral. Parce que vous le savez, il y a cette question de 2 400 000 électeurs sur le fichier électoral dont on ne connaît pas encore les provenances.
Le président Alpha Condé avait décidé de reporter donc les élections, eu égard bien sûr à la tension qui était très vive dans le pays, mais aussi les mésententes avec la CEDEAO sur le fichier électoral justement et l'Organisation internationale de la francophonie. Quel est l'état d'esprit des Guinéens en ce moment-là? Est-ce que la tension a baissé?
Depuis l'annonce de ce report, la tension a baissé d'un cran. Hier, le FNC avait fait appel à un jury de résistance. Les endroits qui sont censés être les plus réputés n'ont pas reçu assez de violence comme on a connu par le passé. Aujourd'hui, il y a de la calme par endroit, même si les opposants restent pessimistes quant à la volonté du chef de l'État d'organiser des élections transparentes. Quand vous promenez à Conakry, vous n'entendrez pratiquement personne parler de ces élections-là. Les citoyens ont pratiquement oublié et pour eux-mêmes, il n'y a plus d'élection.
Aboubacar Condé, rédacteur en chef de Sabari FM, joint hier à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Multiplication des gestes de rapprochement entre la Mauritanie et le Sénégal depuis la découverte de réserves de gaz naturel à leurs frontières. Visite présidentielle et renforcement de la coopération bilatérale par la signature de plusieurs accords. De Nouakchott, notre correspondant Mohamed Diop.
La Mauritanie et le Sénégal vont former un couple producteur de gaz naturel. Mais les deux voisins veulent commencer par renforcer leur entente diplomatique. Macky Sall, président du Sénégal.
Nous avons des défis communs à relever, la main dans la main, dans un contexte de recrudescence du péril terroriste dans la zone sahélienne.
Le président de la Mauritanie, Mohamed Ouldou Razouani, abonde dans le même sens.
Le G5 apprécie hautement la disponibilité qu'exprime le Sénégal à contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel.
Pour l'ancien haut fonctionnaire de l'ONI, Ahmedou Abdellah, c'est un bon départ pour des relations renforcées.
Il y a un bon body language, une bonne communication entre les deux personnalités.
En effet, les relations entre les deux pays ont été décomplexées. Récemment, à Nouakchott, les présidents des deux pays ont signé plusieurs accords. Certains concernent le futur pont sur le fleuve Sénégal reliant les deux pays. Une aubaine pour les riverains.
Qui ne mérite pas d'être parqué sous le vent, le soleil et la pluie pour pouvoir traverser le fleuve.
De même, les deux voisins améliorent leurs accords de pêche. Actuellement, Nouakchott donne 400 licences annuelles aux pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal. Leurs compatriotes résidant en Mauritanie souhaitent y être associés. Ablaye Diaw, président des pêcheurs sénégalais en Mauritanie.
Ils nous laissent, oui, travailler, mais nous nous sentirons mieux avec un document à montrer en guise de licence de pêche. Ce serait beaucoup mieux.
Malgré des hauts et des bas dans leurs relations, Dakar et Nouakchott sont en route pour 2022, date prévue pour l'exploitation commune du gaz naturel découvert à leurs frontières. Les réserves situées à 2000 mètres de profondeur sont estimées à 450 milliards de mètres cubes. Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le combat pour l'égalité. Plus de 100 ans depuis que la Journée internationale des femmes a été célébrée pour la première fois. Je suis de la génération Égalité, levez-vous pour les droits des femmes est le thème de cette année. L'occasion pour nous de faire le point sur les avancées dans les domaines politiques, économiques et sociaux, mais aussi les obstacles. Le chemin encore à parcourir pour arriver à l'égalité. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.